France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je suis Dominique Viss, je suis né le 30 août 1955 à Lisieux dans le Calvados et je suis contre-ténor ou haute contre, c'est comme ça vous plaît.
Hier, Dominique Viss nous racontait les conseils qu'il avait pu recevoir d'Alfred Deller ou de René Jacobs, que ce soit à l'abbaye de Sénanque ou à la Coste. Ce sont des grands maîtres, évidemment, qui lui ont permis, sans doute, lors de ses stages, de comprendre quel était son registre, comment pouvait chanter une voix de contre-ténor.
Je me souviens de l'enregistrement de l'ode de John Blows sur la mort de Purcell. J'avais le disque par hasard, donc il y avait Jacobs et Bowman qui chantaient, et pour moi c'est une révélation, j'ai trouvé ça juste magnifique. Et là justement était posée, parce que c'est une pièce qui est très difficile à chanter, parce que la tessiture est très longue, et elle doit utiliser en même temps la voix de poitrine et la voix de fossé. À la fois ça m'enfermait dans le questionnement, hein, parce que pour nous c'est toujours la question, la voix de fossé, la voix de poitrine, où est-ce qu'on la lit, comment on fait les passages. Et là je me rendais compte que ce Jacobs là, il faisait très très bien la liaison entre les deux. Donc je me suis dit, je vais aller le voir. Et en même temps, j'avais travaillé avec Alfred Deller, où lui, c'était uniquement le registre de fossé. Et il ne m'avait pas donné les clés non plus, le savoir, parce qu'il ne savait pas comment ça fonctionnait.
C'était une voix naturelle pour lui ?
Voilà, lui c'était un grand poète, une voix naturelle, il avait toujours chanté. Donc je n'avais pas les clés, je suis fabriqué comme ça. Et dans les stages, il y avait souvent William Christie qui accompagnait. Et il a fait son groupe à partir de ça, à partir des... Et ça s'est fait comme ça, on est passé du jour au lendemain, d'inexistant à... Enfin, de l'ombre à la lumière, quoi.
Alfred Deller, parlez-nous-en un petit peu, Dominique Viss. C'était un poète, vous disiez.
Oui, un poète. J'ai vraiment des grands souvenirs. Des fameux stages de Lacoste qui étaient organisés par Harmonia Mundi à l'époque. Donc nous, on y allait tous, voilà, pour... quand même, faut pas... on peut le dire, hein, on aimait bien s'amuser. On y allait pour s'amuser, rencontrer des gens et faire de la musique. Et en plus, évidemment, moi, j'ai toujours été très féru de la musique élisabéthaine. Donc là, c'était... Avec ces personnes-là, il y avait lui, mais il y avait ses accompagnateurs, Mark Spencer, Harold Lester, son fils aussi. Donc ces gens-là étaient là pour nous apporter ce qu'on ne connaissait pas, ce qui nous manquait. Et on a énormément appris en les écoutant, en fait. Mais pas, ils n'ont pas pu nous donner les clés, mais par contre, ils nous ont donné un sens de la joie de chanter, de la joie de vivre autour de ces pièces-là qui sont quand même... John Dowland, c'est pas ce qu'il y a de plus gai, quoi. C'est vraiment la mélancolie. Et eux, ils faisaient ça avec une telle joie, avec un tel sourire, que ça a été pour nous un grand apprentissage, en fait.
Et puis, en effet, c'est ces mots qui sont vraiment aussi ceux de poètes. Donc s'il était poète, c'est aussi parce qu'il chantait les poètes.
Oui, puis c'est une philosophie, c'est une joie de chanter la mélancolie, quoi. La mélancolie, c'est le bonheur de la tristesse, disait Victor Hugo. Voilà. Donc ça, j'ai appris ça, là.
Et René Jacobs, c'était quoi les grandes leçons, les grands souvenirs, le grand...
Mais c'était justement par rapport au passage. Et puis, entre Alfred Deller et René Jacobs, ou James Bowman, la technique, ça s'entend, c'est totalement différent. Pas du tout la même tessiture, pas du tout la même façon d'appréhender la voix, même de la définir. Et moi, je voulais absolument apprendre comment il arrivait à faire les passages comme ça sans les entendre. Et c'est l'époque où je commençais à travailler, notamment ce qu'on appelle les hautes contres à la française, quoi. Je toutes les lignes que les contralto ne pouvaient pas chanter, que les ténors ne pouvaient pas chanter. Donc on est tout le temps en train de faire le yo-yo entre les registres. Et au début, ce n'est pas évident.
Donc en fait, haute contre-ténor, c'est une question de musique à laquelle la voix s'applique, en fait. Oui. Selon qu'elle soit la musique anglaise ou française, en fait, l'appellation diffère.
Oui, là, alors là, si on en est sous considération-là, il n'y a aucune règle. D'accord. Et tout ce qu'on pourra... Enfin bon, je revendique du haut de mon âge. Tout ça, ça ne veut rien dire parce que ça n'a pas été classifié. Les voix ont été classifiées à partir du 19e siècle. Et ce registre-là n'existait plus. Donc en fait, on a dénommé cette voix-là qui est la deuxième ligne de la polyphonie, qui est le haut de contre. Donc quand c'est en français, on dit haut de contre. Quand c'est anglo-saxon, on dit counter-tenor, contre-ténor. Et c'est tout. Donc après, il y a les écoles maintenant qui définissent le contre-ténor. En général, le contre-ténor, on considère qu'il chante plus en voix de fossé que le haut de contre. Et par haut de contre, on entend plus un ténor aigu qui chante quelques notes en voix de fossé. Voilà. Mais ça, c'est une explication générale. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est greffé là-dessus avec le temps. Beaucoup de falsettistes, dirons-nous, qui sont un petit peu exubérants, un peu, voilà, et qui veulent se définir avec un vocable poétique particulier. Donc, on a entendu contralto mal, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, castrat, nous, on est taxé de castrat. Quand Farinelli est sorti, par exemple, mais c'était génial. C'est que le public venait nous voir et me disait « Ah, c'est formidable votre concert, alors vous êtes castrat ». Et là, je commençais à dire « Mais non, je ne suis pas castrat, je suis contre-ténor. Le castrat, c'était voilà, l'ablation. Nous, on chante avec une autre façon. » Et en fait, les gens étaient tellement heureux à la sortie du concert. Et ça m'arrive plusieurs fois qu'au bout d'un moment, j'ai dit « Bah oui, je suis castrat ». Et ça m'est arrivé aussi en Amérique du Sud. Parce que, enfin, je ne vais pas dire son nom, mais il y a un ensemble qui était dirigé par un contre-ténor et qui avait énormément tourné. Et il faisait des explications sur la voix de contre-ténor à l'époque. Donc, il disait qu'il y avait deux petites cordes vocales qui étaient à côté des deux autres. Donc, il expliquait ça partout sur la planète. Et donc, les tournées d'après, quand on arrivait, il y avait des gens, pareil, les étoiles dans les yeux, qui disaient « Ah oui, alors, vous avez deux petites cordes vocales à côté des deux autres ». Et donc là, j'ai commencé à me dire, je vais expliquer. Là, je me suis dit non. On laisse les gens dans leur
rêve.
Poésie, dans leur rêve. Enfin voilà, c'est pour dire que c'est pour moi une découverte et que je suis allé vers René Jacobs pour apprendre à unifier un petit peu mes registres.
Alfred Deller.
I love music, I love to sing. So all my work really is done through the aria, through the song that I'm actually singing.
J'aime la musique, j'aime chanter, ce qui fait que tout mon travail vocal, je l'effectue à partir de l'aria que je suis en train de chanter. Je n'ai jamais vraiment ressenti la nécessité de faire des vocalises. Je ne ressens pas le besoin de chauffer ma voix avec des exercices. Et c'est ce que je dis à mes élèves, justement, parce que c'est très important. Répétez où que vous soyez. Cela, vous pouvez le faire quand vous voulez. Si vous attendez votre bus... Pensez à votre interprétation, pensez à votre phrasé. Évidemment, il y a l'aspect de la maîtrise technique, cela va de soi, mais l'autre chose importante, c'est l'interprétation, vous comprenez. Et cela, ça peut se travailler ici, dans la tête. Vous pouvez réfléchir à la direction de la phrase, comment le mot va tomber, comment la syllabe va être formée, la respiration, etc. Nous pouvons penser à tout cela. Et c'est pour moi peut-être encore plus important que le fait d'émettre un son.
Love, 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 love.
Il y a quelqu'un d'important, je crois aussi, parce que les études de musicologie, vous allez les quitter, mais enfin, les musicologues, vous n'allez pas les quitter, vous allez les rencontrer et ils vont être très importants pour vous. Quelqu'un comme Jean-Pierre Vouvrard.
Ah bah, c'était un ami proche, voilà. Et quand le groupe est né, enfin l'ensemble Clément Jeannequin est né en 1978. Moi, je n'avais aucune connaissance. Bon, j'ai fait 3 mois de musicologie. Et surtout, ce que j'avais appris n'avait rien à voir avec la musique de la Renaissance à la Sorbonne. J'aurais dû aller à Tours, plutôt, voilà. Donc, tout de suite, on s'est attaché à cette personne-là. Et systématiquement, pendant une longue période, même quand je faisais un programme, que ce soit de disque ou de concert, je lui envoyais et je lui demandais ce qu'il en pensait. Ou même parfois, je lui demandais carrément s'il aurait la gentillesse de me proposer un programme que lui, il aurait fait. Et ce qui était magnifique, c'est qu'on était rarement d'accord, en fait, parce qu'on venait de 2 mondes totalement différents. C'est ça qui est génial dans la musique, comme dans la musicologie, c'est qu'il n'y a pas de règles. Et moi, toute ma vie, j'étais cartésien, donc j'ai voulu, de façon cartésienne, trouver des règles, comme sur des choses purement techniques, voilà, les fausses relations, les transpositions, la musique affecta. Trouver des règles, et en fait, plus ça va, plus je me rends compte que, même à l'époque, il n'y en avait pas. Et que ça toujours été très intéressant avec Jean-Pierre Vouvrard d'avoir une approche différente sur un même programme, sur les mêmes pièces. Et en fait, on s'entendait très très bien, surtout après 1 ou 2 verres de vin qu'il appréciait particulièrement et moi aussi.
Quand on copie ce que vous avez beaucoup fait, hein, vous avez même été, je crois, copiste officiel pour les arts florissants pendant quelques temps. Cette pensée comme ça, un peu mathématique, elle aide évidemment à comprendre le discours. Et après, quand il y a justement des raretés, des choses et des audaces, on ne se dit pas que c'est une faute. Comment est-ce qu'on arrive à déceler que là, c'est vraiment ça ou qu'en fait...
Moi, je suis devenu copiste très vite aux arts florissants parce que je copiais déjà. Et que j'ai eu le privilège de faire, même de construire beaucoup de programmes avec William Christie. J'ai des souvenirs très émus avec lui à la Bibliothèque Nationale, enfermé dans le studio. On lisait du répertoire. À l'époque, j'avais pas trop d'argent pour manger, donc ils m'emmenaient systématiquement manger au restaurant chinois à côté. Donc pour moi, c'était des journées paradisiaques. Donc on lisait la musique, mais effectivement, il n'y a pas moyen de photocopier, tout simplement. Les seules possibilités pour avoir la musique qu'elle sorte de la bibliothèque, c'était de commander des microfilms. Donc il fallait en général des fois 3 semaines, 1 mois, des fois 2 mois, pour avoir qui coûtait très très cher en plus, et après faire les tirages photo. Et de toute façon, on pouvait pas lire dessus. Donc après, il fallait transcrire. Donc très vite, comme moi j'avais déjà... Et puis que ça m'excitait énormément. Donc très vite, il a été décidé que je sois le transcripteur. Et pour rejoindre votre question, ce que j'ai découvert après, ce qui était fascinant, c'est justement l'emprise que j'avais sur la musique et sur les altérations, sur les fautes éventuelles du compositeur. Et pour l'anecdote, une des premières pièces que j'ai transcrites, c'est le Fils prodigue de Charpentier. Et Charpentier, qui est le plus italien des compositeurs, et de même que Lully, le plus français et italien, voilà, aimait énormément les fausses relations. Donc les dièses qui frottent contre les bécards, ou les bémols qui frottent contre les bécards aussi. Donc là, c'est presque sans arrêt dans un chœur qui a 5 voix, et il y a beaucoup de mélisme, et ça frotte vraiment énormément. Et en fait, j'ai transcrit, et c'est tellement précis. Le texte, par contre, Charpentier, c'est du sport. Il y a beaucoup de fautes, son latin, enfin moi je l'ai appris par la suite, mais dans les petits oratorios, évidemment quand c'est l'office, il n'y a pas de problème, mais quand ce sont des petits oratorios, ils étaient censés écrire en latin, et lui il est très mauvais latiniste, donc il y avait des problèmes, et il écrivait très très mal, patte de mouche, enfin bref. Mais par contre, j'avais tout de suite remarqué qu'au niveau des altérations, il était très très précis. Donc j'ai transcrit, c'était les premiers Charpentier que je transcrivais, donc j'étais pas complètement sûr de moi-même. Et en fait, la première répétition du Fils prodigue, William Christie lui-même a dit « Ah non, non, mais ça, ce sont des fautes. Ça, c'est pas possible. » Donc c'est étonnant, c'est que lui, musicologue, quand même, il fait les grandes écoles aux États-Unis, ne pouvait pas imaginer que Charpentier était si moderne par rapport à son temps. Et moi, j'ai dit, si, si, mais j'osais pas trop dire, parce que c'était le début. Et en fait, j'ai dit, si, si. Puis après, quand j'ai continué à transcrire une ou deux pièces après, j'ai dit, là, je peux te prouver que c'est comme ça.
France Musique, les grands entretiens de Dominique Wyss.
Et après, évidemment, ce qui est excitant, c'est comment présenter écrire la pièce, même maintenant avec un ordinateur, comment transcrire une page pour qu'elle soit le plus lisible possible. Et surtout, j'ai découvert qu'on a énormément de pouvoir sur le tempo.
Avec la graphie ?
Avec la graphie. Par exemple, si vous transcrivez, si vous écartez énormément les mesures, ou si, au contraire, comme certaines éditions où tout est serré, le texte très serré, en fait, la même musique ne sera jamais chantée ou jouée à la même vitesse.
Parce que quand c'est serré, on a envie de jouer vite ?
On va très vite.
Peu importe la valeur de la note ?
Exactement.
Le début des arts florissants, c'est une période, en effet, absolument d'ébullition et d'un groupe qui est tout petit.
Oui, c'est 8 chanteurs avec continuo, donc 2 clavecinistes et une basse. Donc c'était une période évidemment magique où à la fois on était chanteur, à la fois fallait manier la perceuse, à la fois moi j'étais aussi le chauffeur, tiens des seuls qui avaient une voiture. Enfin, à la fois, on faisait à manger, ce qui était fantastique, qui m'est resté toujours. À l'époque, on répétait chez William Christie, dans un appartement qui était joli, mais petit. Et ce qui me fascinait, c'est qu'on répétait, on découvrait de la musique, en même temps que lui, d'ailleurs. Et en même temps, il faisait la cuisine. Et systématiquement, on finissait la répétition, on mangeait tous ensemble, voilà. Il y avait une vie vraiment collégiale, vraiment familiale, qui était magnifique, quoi.
Avant, quand même, cette période des arts florissants, bon, déjà, il y a votre ensemble qui va être fondé une année avant les arts florissants, mais, j'allais dire, en prélude, il y a aussi d'autres ensembles. Les musiciens du Prince de Conti, par exemple, la rencontre avec Christophe Coin, tout ça, ce sont des choses qui préexistent.
Absolument. Et en fait, je dois tout à Christophe Coin. Voilà, tout simplement, c'est dit. Parce qu'il se trouve que à l'époque en Normandie, il y avait quand même pas mal d'émulation, mais c'était très restreint. Il y avait le chœur où je chantais, et lui, il vient de la ville de Caen, donc près d'où je suis né. Moi, je suis né à Lisieux, c'est 30 kilomètres. Et il se trouvait qu'on faisait de la musique en Normandie dans une ferme. Il y avait la grand-mère, la maman, voilà, qui n'avait pas connu son mari la nuit de noces. Il est parti, il est mort. Et la fille qui est née, et la fille avait une magnifique voix, elle chantait. Et ces gens-là étaient ouverts à la musique totalement. Et voilà, le s'enfermer sur le deuil et tout ça, ils ont eu à cœur de faire la musique à l'église et aussi chez eux. Et ils ont réuni des gens, voilà, Christophe Coin, un tas de musiciens. On faisait même les charpentiers. Le premier que j'ai transcrit, c'est pas aux arts florissants, c'est déjà bien avant, pour faire une messe de minuit dans ce petit village qui s'appelait Abloville, voilà, où il y a 200 habitants. On chantait en grégorien, on faisait ses offices. Donc c'était une période vraiment bénie où on a rencontré beaucoup de gens. Et Christophe Coin était là, il était tout jeune. Et c'est lui qui m'a dit, il y a un groupe qui s'appelle les Croque-Notes à Caen. Donc j'y suis allé, j'ai joué. Et il se trouve qu'on on a fait une pièce qui s'appelle le jeu de Robin et Marion, une pièce médiévale, 13e siècle, où là, il y avait la soprane, la fermière, qui chantait. Et pour donner la réplique, il y a eu besoin à un moment qu'un des hommes, il y avait presque que des hommes dans le groupe, chante, mais chante à la hauteur de cette femme, en voix de fossé. Donc tout le monde s'y est essayé, Christophe aussi s'y est essayé. Et moi, comme j'avais déjà chanté, en fait, ça c'est... Et surtout, comme j'avais aucun complexe et que ça m'amusait, donc je l'ai fait. Donc c'est vraiment là la première fois que j'ai chanté en fossé. Et ça m'a énormément amusé. J'adore ma voix de l'intérieur, mais je n'aime pas l'entendre, par exemple. Je la trouve effectivement trop pointue, trop acide. Je trouve plein de défauts, mais et il y a beaucoup d'autres voix qui sont plus rondes, plus arrondies, et qui ont un vibrato que je trouve très, très suave et très beau, et qui me satisfait énormément.
Et vous dites que vous l'adorez de l'intérieur, c'est-à-dire que quand vous l'avez en vous, elle est plus ronde que quand elle sort ?
Oui. Oui, malheureusement. Oui. Mais ça rejoint parce que quand on écoute une voix, on cherche la rondeur, les vibrations, le vibrato, tout ça, on le cherche avec les oreilles. Mais là, évidemment, naturellement, il y a des vibrations qui sont internes au corps, que la voix vous procure, qui correspondent évidemment à ce qu'on recherche de l'extérieur quand on entend une voix. Donc c'est déjà satisfaisant. Et effectivement, la perception que j'ai de ma voix, de l'intérieur, je la trouve plus ronde à la produire. Il dit, j'ai énormément de mal à m'écouter. Quand je suis rentré à la Sorbonne, Christophe m'a dit oui, il y a un groupe dans lequel je travaille qui s'appelle les musiciens de Prince de Conti, voilà, qui était dirigé par Maurice-Pierre Gourier, et là qui faisait de la musique baroque. Et comme je jouais la flûte, il me dit, ce serait bien que tu viennes parce qu'on aurait besoin d'un deuxième flûtiste, il n'y en avait qu'un. Et comme tu chantes en contre-ténor, ce serait vraiment intéressant. Donc c'est encore une fois grâce à lui, en arrivant à Paris, que j'ai intégré ce groupe-là, où là, ben, voilà, ça a été une révélation. On a voyagé, s'amusé, on avait des très jolis costumes Louis XV, et on faisait essentiellement de la musique française.
C'est à ce moment-là que vous commencez à vivre de la musique ?
Oui, absolument. Ben, j'ai l'âge d'être à la retraite, donc je sais qu'il y a déjà des feuilles de paye de ces époques-là, quoi. Mmh. Qui sont toujours là. Je trouve ça fascinant, d'ailleurs. Et c'est, oui, j'ai commencé à vivre là, et c'était une période difficile, mais là, la grande marche par rapport à la finance, on peut en parler, hein, c'est que, aux arts florissants, très vite, William Christie a eu à cœur que les gens soient payés équitablement. Et bien, et puis bon, voilà, tout simplement, Mitterrand arrive en 81, Jack Lang, voilà, ouvre une porte immense à la culture, il y a quand même beaucoup d'argent, et tous les groupes qui sont nés, comme nous, 78, 79, d'un seul coup, on passe de rien à beaucoup, et en plus, William Christie a eu à cœur qu'on soit mensualisé, qui est un truc totalement incroyable. Donc, on avait un salaire, qu'on chante, sur on était 10, plus lui. Sur les 10 personnes, qu'on chante une partie dans un concert de 3 phrases, ou qu'on a une grande partie de soliste, tout était totalement égalitaire et on avait un salaire vraiment confortable. Donc on a une vie d'un seul coup très facile. Moi, je suis passé d'interdit bancaire à pouvoir m'acheter une voiture, voilà, pas de luxe, mais presque.
Bonjour,
La musique de Marc-Antoine Charpentier par les arts, Florissant, les chanteurs, Philippe Cantor, Michel Lapleny et Dominique Viss, dirigé par William Christie, pour refermer le troisième épisode des Grands Entretiens avec le contre-ténor français. Suite de ce portrait, demain, à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.